Polyplaisir des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Polyphile du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour. Sophie, tu es là?
Je suis là, oui.
Donc, émission spéciale aujourd'hui, un petit peu, puisque tu es mon invité principal. Et puis, on est quand même compagnon de vie, donc quelques années de route.
Oui, ben 25, je pense, cette année. Hein. Mm-hmm. On pourra fêter ça.
Donc, on a un couple qui dure et qui a une histoire particulière. Donc, par rapport au beau petit réseau du polyamour qui se développe ici en Belgique, je sais que tu... Bah, par exemple, au Café Poly, bah, tu as eu quelques semaines d'absence, puis là, tu reviens avec grand plaisir, là, j'observe ça.
Oui, quelle était ta question par rapport à ça?
Ah ben, c'est un piège, il n'y a pas de question, justement.
Alors, je vais te donner la réponse que je veux.
Alors, tu reviens avec plaisir.
Ah, bien sûr, je reviens avec plaisir, avec grand, grand plaisir, oui. Mais ce n'est pas la première fois que je fais un peu des allers-retours comme ça, parce que ces dernières années... J'étais un peu dans des doutes et je crois qu'à ce moment-là, c'était pas toujours facile pour moi de m'insérer dans ce réseau poly parce que j'étais dans des questionnements et que c'est vrai que j'avais pas forcément envie de m'ouvrir par rapport à ces questionnements face à des polys. J'avais envie de rester seul, moi, dans ma réflexion. Donc c'est pas tout à fait la première fois que je suis un peu distante. Mais bon, là, si j'étais distante, c'était pas du tout pour un questionnement par rapport au poly. Je pense que c'était plus moins un parcours de vie. Et j'avais besoin de pause, j'avais besoin de rester un petit peu dans mon monde.
Ouais. Donc si on fait un petit saut en arrière, juste pour parler de nous un peu.
Oui.
Par exemple, il y a une vingtaine d'années, il y a eu quelques petites tentatives comme ça d'ouverture un peu intelligente dans notre couple. Et en même temps, c'était pas toujours gagné, et puis c'était tout un parcours qui a pris cours avec les années qui ont suivi. Mais quand tu as le regard maintenant comme ça sur ce passé-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre peut-être à des gens qui ont aussi un parcours comme ça de couple principal qui a duré assez longtemps et qui a envie de s'ouvrir aux amours pluriels?
Ben, disons que nous, notre démarche, elle a été, on était encore, toi et moi, relativement jeunes. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui apprend dans l'expérience. J'ai un accès au livresque, mais ce n'est pas mon mode d'apprentissage privilégié. Et c'est vrai que ça s'est déclaré quand même relativement tôt, nous deux, le polyamour, enfin, les expériences, la recherche. Et j'entendais justement Bob tout à l'heure, parce que j'ai écouté l'émission tout à l'heure, qui parlait de la démarche qu'il a suivie, ainsi que sa femme, qui a été dans un premier temps apparemment une longue réflexion, une documentation, des lectures, donc toute une recherche qui me semble quand même relativement intellectuelle. Et pour nous, ça s'est pas vraiment passé comme ça, ça a été peut-être un petit peu même inverse. On sait, enfin, est-ce qu'on peut dire en tout cas, moi je me suis lancé dans l'aventure parce que je pense que c'est un petit peu moi qui t'ai tiré.
Tu m'as invité.
Je t'ai invité là-dedans. Et par après, on s'est nourri de lecture parce que c'était comme, on s'est rendu compte que c'était un chemin pas facile et qu'on avait besoin peut-être de chercher un peu des réponses à des tas de questions à ce moment-là. À travers des témoignages de personnes qui vivaient un peu la même chose que nous, ou qui en tout cas avaient un peu développé des idées là-dessus. Et donc c'est vrai que nous on s'est lancé un peu à corps perdu, ça s'est imposé à nous en fait. Donc je ne sais plus très bien quelle était ta question, mais voilà ma réponse.
Ben revenons à l'invitation justement, parce que tu m'as invité, et puis j'ai quand même mis 4-5 ans pour un petit peu réfléchir à l'invitation, en observant le petit carton que tu m'avais envoyé. Voilà, c'est un petit peu comme ça, bon, je le dis un peu en clin d'œil, mais c'est vrai que pour moi, ça a été une initiation un petit peu douloureuse, et en même temps, c'était une vraie invitation d'amour que tu me faisais en même temps.
Mm-hmm. Disons que, voilà, pour moi, ça s'est un peu imposé à moi quand j'étais rencontrée, j'avais déjà un autre homme dans ma vie, mais j'étais dans des idées très monogames, et j'ai été face à un choix. Donc... J'ai choisi, je t'ai choisi à l'époque. Et voilà, mais quelque part, je pense que cette histoire, l'histoire que je vivais avec un autre homme n'était pas terminée. et j'avais encore besoin de la terminer, ou en tout cas de la continuer, parce qu'elle n'est pas encore terminée, elle est toujours là. C'est un homme que je vois encore régulièrement, avec qui il y a parfois encore des échanges, enfin ça dépend de mon évolution personnelle, de mes envies, mais bon, c'est resté un ami très très fidèle, très proche, et on a encore des moments d'échanges sensuels, sexuels, on a encore des moments de forts sentiments l'un envers l'autre. Et voilà, donc, au bout de quelques années de vie commune, donc entre toi et moi, eh bien, ça s'est imposé à moi. J'ai eu vraiment une pulsion. J'avais besoin de revoir cet homme. Et peut-être dans une période aussi de notre couple où on rentrait dans un ronron, on avait nos deux enfants. Et j'ai eu besoin de nouveau, j'ai eu besoin, je crois, d'aller un peu vers des aspirations qui m'étaient personnelles, des aspirations qui étaient en dehors de toi, en dehors d'une vie commune, de notre vie commune, en dehors d'une identité de mère, d'épouse. Et je crois que je suis quelqu'un, voilà, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de nouveau. Et voilà, cet homme, je l'ai revu. Et pouf, ça m'est arrivé, le polyamour m'est tombé dessus. Donc je me suis rendu compte que je pouvais continuer à aimer cet homme d'un amour profond, tout en t'aimant toi encore tout autant, et même, je dirais même plus. Parce que je rencontrais avec cet autre homme d'autres facettes de moi, je pouvais déployer... et que je pouvais te faire partager, et du coup, avec toi, je vivais des choses qui étaient encore plus épanouissantes, que je pouvais partager avec lui, enfin, c'était, j'ai découvert comme ça une espèce d'échange, de fluide. En tout cas, moi, je me sentais très nourrie, et encore maintenant, quand j'ai plusieurs relations, je sens que ce sont des choses qui me nourrissent, et que je peux du coup partager autant avec toi, autant avec les autres personnes avec qui je suis en relation. Parce que c'est des choses, voilà, c'est comme si c'était une nourriture qui passait par moi, mais que du coup je peux partager avec plusieurs personnes.
Mais donc on peut revenir un peu plus tard dans l'interview à oui. Nous deux, mais je fais le lien directement avec le réseau, les Cafés Polis depuis 3 ans, une fois par mois, tout ce beau réseau autour de nous, le forum. Et est-ce que parfois tu es tenté comme ça, tu observes un petit peu avec l'expérience que tu as de vie? Des amours pluriels, et je sens, enfin, c'est une confirmation que j'attends dans ta réponse, que tu es sensible à ce que peuvent vivre les autres et aux doutes. Et je sais que chez toi, tu as aussi souvent le bonheur d'expliquer aux gens ça peut être magique, et en même temps, il y a des souffrances.
Oui.
Moi, je sens souvent que tu as cette envie-là.
Oui, moi, au départ, ce qui m'a vraiment motivé à m'investir dans ce réseau poli, c'est que j'avais envie, parce qu'on a eu des difficultés, toi et moi, qu'on a pu dépasser, qu'on a pu travailler. Enfin, je me suis rendu compte que le polyamour mettait fort, et personnellement, et le couple, ça nous mettait fort en travail. Et j'avais envie, moi, en fait, de faire partager mon expérience, de peut-être aider, ou en tout cas de partager avec d'autres personnes qui vivaient la même chose. Parce que c'est pas un chemin tous les jours facile, c'est pas évident, ça va nous remuer dans ce qui est peut-être le plus, parfois des blessures les plus archaïques. Et j'avais envie de faire profiter de notre expérience et de mes découvertes d'autres personnes. Je sais pas très bien dans quel genre d'idée, mais je suis quelqu'un d'un peu idéaliste comme ça, et donc c'était un peu dans une idée de dire, bah allez. Si je peux aider certaines personnes à faire des raccourcis, peut-être à pas passer par où nous on est passé, ou donner des réponses à des questionnements, parce que c'est vrai que moi je me suis senti fort seul. On connaissait personne à cette époque-là qui vivait la même chose que nous. Quand on essayait d'en parler, même quand moi j'essayais d'en parler à des amis, elles avaient beau parfois être très proches, c'était toujours le même genre de réponse que j'avais. C'était du style « Ah ben oui, mais tu joues avec le feu, ma fille. » Ou « Ben oui, ben écoute, je peux pas t'aider, je vis pas du tout la même chose. » Et finalement, je me sentais très seule et très incomprise. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a motivée, c'est de me dire « Mais si moi je peux aider d'autres personnes à se sentir moins seules et à pouvoir peut-être avoir, je vais pas dire des réponses, mais en tout cas un chemin de questionnement ou oui, parfois trouver des réponses, ben pour moi ça avait vraiment tout son sens. Parce que c'est, j'avais... Mais je suis quelqu'un un peu comme ça, de la transmission. J'aime bien transmettre. Et je pense que c'était un peu dans cette idée-là aussi. Si je peux transmettre mon expérience, et si ça peut aider d'autres gens, les diriger un peu dans leur vie, voilà, moi, ça me rend heureuse, du coup. Parce que je trouve que c'est un chemin difficile. Parce que ça nous met vraiment au travail. Parce que ça oblige à l'autonomie. Parce que la jalousie est quelque chose... qui nous taraude les tripes et que ce sont des émotions qui sont très très fortes et que parfois c'est difficile de ramener les choses dans la tête et que d'avoir quelqu'un qui peut être à l'écoute, ça peut vraiment aider.
Donc ça c'est pour la partie chemin initiatique. Et est-ce que l'invitation que toi tu as eu envie de me faire et de faire peut-être à vos autres polyamoureux est-elle parsemée de quelques bonus quand même? Parce que là, ok, c'est Vas-y. Difficile, on transpire et c'est un chemin initiatique qui nous touche dans nos profondeurs. Mais quel est maintenant peut-être le merveilleux que tu as pu trouver dans cet équilibre?
Oui, ça j'ai déjà abordé ça justement en parlant...
Mais ne faisons pas l'économie d'un peu inviter aussi au dire pour les gens que ça peut convenir par exemple, qu'est-ce que tu as envie de dire quoi?
Pour les gens à qui le polyamour pourrait convenir.
Oui, et qui sont d'accord de se dire ok, il y a des difficultés.
Oui, bien... Il y a beaucoup de choses. D'abord, cette idée de développer sa propre autonomie. Et ça, c'est autant dans les expériences où moi, j'ai des relations extérieures, autant au moment où toi, tu en as. Mmh. Disons que j'ai dû vraiment apprivoiser la jalousie, par exemple. On va commencer par... dans ce sens-là, quand toi, ouais. Tu as... Et ça a été très, très formateur pour moi, parce que de me dire, en fait, parce que ça me ramène à moi, et je me dis, mais oui, d'accord, bon, l'autre vit ça ce soir, l'autre vit ça pour le moment, et toi, dans la vie, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu veux? Et donc, ça m'a vraiment poussé, moi, à chercher ce dans quoi je me réalisais, ce qui me faisait du bien dans ma propre vie, et à développer une forme d'autonomie. Sinon, je pense que je serais quand même restée une espèce de petite fille un peu dépendante d'un homme, très dépendante affectivement en tout cas. Et là, je pense que ça m'aurait pas fait du bien en tout cas. Et donc, dans le sens où, quand toi, tu as des relations extérieures à notre couple, je vais dire, pour moi, c'est très formateur, ça me fait vraiment grandir. Et il y a une forme de fierté aussi, je pense, de pouvoir me dire, tiens, mais... Voilà, je deviens autonome, je vis bien ce qu'il vit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une part du polyamour qui me nourrit beaucoup. Et puis évidemment, quand moi j'ai des relations autres que mes relations avec toi, quand je suis amoureuse d'un ou de plusieurs autres hommes, j'ai vraiment l'impression de continuer à me découvrir, de répondre à des choses... de répondre à mes besoins, parce que je pense que je suis quelqu'un, je crois l'avoir déjà dit, qui a besoin que ça bouge dans ma vie, j'ai besoin de rencontrer des gens, je suis très relationnel, je suis très dans le corporel, très dans le vécu, et à travers des expériences comme ça où je sens que je peux continuer à séduire, que c'est la rencontre intime aussi avec l'autre, Ça me fait vraiment vibrer et de pouvoir, enfin pour moi c'est une chance inouïe de pouvoir me dire mais je peux aller vers des choses qui me font vibrer. C'est vrai qu'adolescente j'étais fort séductrice. Maintenant ben avec la bouteille ben ça s'est transformé en échange quand même plus intime et de pouvoir continuer quand même un petit peu à retrouver cette séductrice qu'il y a en moi. Tout en me permettant, en pouvant aller plus loin dans des échanges intimes, pour moi c'est vraiment, enfin c'est cadeau et je m'épanouis énormément là-dedans.
Est-ce qu'on peut parler d'élan de vie qui est chaque fois renourri alors ?
Élan de vie chaque fois renourri, oui, parce que l'amour c'est fort, parce que, enfin je dis souvent que moi je suis une grande amoureuse, Je suis quelqu'un qui a besoin d'être amoureuse, que pour pouvoir vraiment avoir des échanges sexuels, par exemple, avec un homme. Et alors, avant de pouvoir en arriver là, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de beaucoup d'échanges, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de découvrir l'autre. Et c'est tout ça qui est vraiment nourrissant pour moi, épanouissant. Enfin, moi, je trouve que rencontrer quelqu'un de nouveau, que ce soit amoureusement, amicalement, enfin, moi, ça me fait vibrer, quoi. C'est vraiment quelque chose. Je sais pas, je me sens vibrer dans ces moments-là. Oui.
Un petit détour par la famille, donc je crois savoir que tu es issu d'une famille un petit peu classique, si j'ai bien compris ce que j'ai observé.
25 ans.
Et donc, est-ce que, évidemment, là, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques freins? Comment tu as pu gérer ça ou ne pas gérer ou voilà, est-ce que c'est si simple? Parce qu'il y a déjà, on a parlé un peu de la pression sociale, de la société, de tes amis, et puis il y a quand même aussi la famille, quoi.
Oui, voilà. Et peut-être on peut trouver, moi, l'origine de mes envies polyamoureuses dans mon passé, où c'est vrai que j'ai ressenti vraiment le fait d'avoir été mise en tout cas, on essaye de me mettre dans un moule. Et j'ai une famille très conventionnelle, très très catho, pardon. Et j'étais fort différente de ma famille, en fait. Et je crois que quelque part, de vivre des expériences polyamoureuses, c'est aussi une façon pour moi de vivre une forme, en tout cas, d'anticonformisme, une forme de réaction à tout ça, à tout ce que j'ai vu. J'ai vu des parents, voilà, moi je suis née, que mon père avait 43 ans et ma mère 40. J'ai vu un couple déjà fatigué. J'ai grandi avec un couple qui avait vraiment beaucoup d'années derrière eux, et où on sentait quand même qu'il y avait de l'amour et du respect, mais il n'y avait rien qui vibrait, il n'y avait rien qui était vivant. C'était un peu comme ça, mortifère. C'était assez. Et voilà, moi je crois que quelque part, j'ai pas eu envie de ça. J'ai pas eu envie de vivre ce genre d'expérience. Et avec cet aspect peut-être un peu anticonformiste, et ce grand besoin de liberté exacerbé par cette tentative de mon entourage de me mettre dans un moule, ben tout ça faisant, ben je suis arrivé à ce cheminement-là. Mais bon, je n'en parle pas à ma famille, c'est pas quelque chose d'envisageable, en tout cas pour le moment, parce que j'ai mis beaucoup d'années pour me sentir appartenir un peu à cette espèce de tribu. Et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de mettre en péril. Ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Enfin, ce manque de sentiment d'appartenance, voilà, ça m'a fait beaucoup souffrir pendant mon adolescence et pendant ma vie de jeune adulte. Et c'est quelque chose que j'ai envie de préserver. Donc je le garde quand même relativement secret, ceci dit en sachant que notre fille en a parlé à une de mes sœurs, mais qui envisage la chose, enfin qui apparemment elle m'en parle pas beaucoup, mais elle m'en a parlé une fois où elle n'a pas émis de jugement à ce sujet. Mais voilà, pour préserver un peu mes relations à l'intérieur de ma famille, j'ai préféré ne pas en parler. Ça m'appartient et c'est un peu ma petite forme d'anticonformisme.
Puisqu'on parle un peu de nous ce soir, on se fait plaisir. C'est une petite invitation au micro vraiment agréable avec toi. J'ai envie de revenir à l'invitation que tu m'avais faite hein, il y a 20 ans. Ouais, il y a à peu près 20 ans. Il y a eu quelques larmes aussi de mon côté, parce que même si tu avais senti en moi le côté alternatif, hein, post-punk new wave, tout ça, enfin bon, voilà, un petit côté anarchiste chez moi. Donc je pense qu'on s'est trouvé là-dessus et que c'était intéressant. Mais moi, quand même, c'est aussi passé dans le corps et j'ai eu du mal à accepter que tu es cet homme-là. Surtout qu'au départ, moi je dirais que c'était pas quelqu'un que tu voyais de manière récurrente. Oui, tu le voyais par période. Et donc je me disais, est-ce que c'est son amant? Oui, mais dans le fond, pendant 3 mois, il se voit plus, 4 mois, puis après il se voit 2 fois. Enfin, et ça a été difficile parce que je ne pouvais pas mettre d'étiquette et de façon de fonctionner. Et puis en plus, cet homme-là n'avait pas spécialement envie de comprendre ce qu'on vivait non plus. Aujourd'hui, peut-être qu'il comprend un peu mieux, mais voilà, il y avait quand même cette difficulté. Et là, je trouve que tu as pu m'inviter dans une confiance. Tout doucement en me montrant que c'était possible. Mais moi, personnellement, ça a été Mais je me sentais toujours libre, hein, de te quitter ou de faire une pause dans notre relation. Mais c'est vrai que c'est quand même passé par des larmes. Et je me dis, dans le fond, moi, quand j'entends notre réseau polyamoureux aussi, il y a des belles victoires et des moments magiques. Et puis, il y a quand même, à peu près à coup sûr partout, des moments où on se dit, c'est quand même un peu cher payé. Mais en fait, en même temps, quand on regarde des couples monogames qui, après 10-20 ans, ça n'a pas l'air aussi terrible. Enfin, je veux dire, il y a aussi leurs difficultés. Et donc, comment toi, tu vois un peu cette période-là de départ où tu voyais ma souffrance et tu avais envie de m'inviter à quand même quelque chose de merveilleux, quoi.
Disons qu'à cette époque-là, je crois que je voyais vers quoi on se dirigeait. Voilà, on était un couple qui était ensemble depuis pas mal d'années. Et puis on avait deux enfants. On s'était rencontrés jeunes, on avait eu des enfants jeunes. Et je pense que on avait un petit peu peur tous les deux de la vie, à 20 ans quand on s'est rencontrés. Et on s'est fort accrochés l'un à l'autre pour avancer dans la vie ensemble. Et je pense que, sans m'en rendre compte, évidemment, hein, tout ça c'est maintenant rétrospectivement que je peux l'analyser, ou en tout cas le regarder, quelque part je sentais un peu vers quoi on allait. Et, moi je commençais déjà un petit peu peut-être à me fatiguer, ou j'avais peur en tout cas de m'éteindre dans ce qu'on vivait. Et comme je disais tout à l'heure, ça s'est imposé à moi. J'ai un jour pensé à cet homme, mais je me suis dit, je le recontacte et on est allé manger un bout ensemble. Et il y a une telle attirance entre nous, de toute façon, que quand j'ai pris rendez-vous avec lui, je savais très bien ce qui allait arriver. Je m'en doutais. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile pour toi, mais on était aussi dans une époque où on commençait à s'enfermer dans des rôles. Et moi, je m'enfermais dans un rôle de mère et d'épouse, mais principalement de mère. Et j'avais des difficultés d'un point de vue sexuel. Je me souviens, c'était pas facile. J'avais un peu du mal à accéder à mon plaisir. J'étais un petit peu fermée. Ça commençait à devenir un peu difficile entre nous sexuellement. Et toi, tu étais là avec des demandes. Et moi, je sentais que je n'arrivais pas à y répondre. Et on ne comprenait pas ce qui nous arrivait à l'époque. Et comme j'ai eu une vie adolescente un peu mouvementée et pas toujours très nourrissante d'un certain point de vue, en tout cas au point de vue sexuel, je me souviens avoir dit, bon ben j'endosse la responsabilité, oui j'ai un problème sexuel, ça ne va pas. Et puis, après avoir vu cet homme-là, où j'ai eu une expérience vraiment, où j'ai sans doute recontacté la femme qu'il y avait en moi, je me suis dit, mais je fonctionne bien, mais tout va bien. Et j'avais recontacté aussi un peu ce qui émoustille quand on est amoureux, quand d'une nouvelle relation, les choses sont toujours faciles.
C'était une nouvelle et en même temps,
Oui, une nouvelle et en même temps une ancienne, mais c'est vrai que c'est une relation quand même très charnelle entre lui et moi, et nos corps se comprennent très très bien, et je le connaissais depuis que j'avais 15 ans, et depuis toujours, on avait des corps qui dialoguaient vraiment très très facilement. Et ça m'a réveillé, je me souviens. Ça a réveillé quelque chose, ça a réveillé la femme en moi, en fait. Ça m'a montré, mais t'es une femme avant d'être une mère. Et je me rappelle très très bien comment j'ai pu, du coup, en recontactant moi, pour moi, en dehors même de cette relation avec cet homme-là, bon, enfin, c'est à travers cette relation-là que j'ai pu recontacter la femme intérieure, mais comment j'ai pu, avec toi, avoir des échanges sexuels, mais magnifiques, des échanges et sexuels et émotionnels, puisque. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce qui se passe là? C'est magique, quoi. Je me nourris, et du coup, ça nourrit notre couple. Et voilà, il faut dire qu'aussi, avec mes parents, j'avais été un peu formaté. J'ai eu un père qui nous a dit qu'on n'était pas des. Parce que j'ai deux sœurs, qu'on n'était pas des femmes, mais qu'on était des mères. Que sur Terre, on n'était pas X milliards d'hommes et de femmes, mais qu'on était X milliards de pères et de mères. Donc, quelque part, j'étais déjà formatée dans quelque chose qui faisait sans doute conflit aussi chez moi, parce
C'est
que
presque une injonction
c'était
parentale.
une injonction parentale, oui, une injonction paternelle. Ma fille ne soit pas une femme, soit une mère. Et j'ai été fidèle à cette injonction, sans doute, d'où nos difficultés à tous les deux. Après avoir été mère, j'ai eu beaucoup moins de difficultés à retrouver la femme. Et je pense que c'est les relations polyamoureuses qui m'y ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment permis de me rappeler que j'étais une femme. Que j'étais une femme tout autant que j'étais une mère. Donc pas avant d'être mère, pas après, mais tout autant. Et que j'avais le droit de me permettre ça. J'avais le droit d'être en même temps mère et en même temps femme. Et en recontactant la femme que je suis, eh bien, je pouvais le partager avec plein d'autres hommes, mais voilà, c'est parfois difficile à expliquer. Mais tiens, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'un autre homme pour me montrer que j'étais une femme? Ben, je pense aussi que tu étais le père de mes enfants et que ça enfermait, ça cadenassait un peu des rôles de nouveau. Et je crois que j'avais besoin de faire péter un peu tous ces rôles. J'avais besoin d'aller rechercher quelque chose d'essentiel.
Il y a un débat aussi un peu au niveau de la biologie en disant oui, mais dans le fond, ben, l'homme et la femme sont comme d'autres mammifères, par exemple, dans une nature, avoir plusieurs partenaires. Et donc, c'est un débat en cours, mais est-ce que ça peut aussi s'expliquer comme ça, d'après toi?
Mais pourquoi pas, oui. Moi, quand je vois comment nos sociétés évoluent, comment le mariage évolue, enfin, en tout cas, les relations de couple. On est quand même forcé de voir que ce qu'on appelle un peu entre nous pour rire, les serial lovers, c'est quand même un peu ça, c'est une forme de polygamie, mais l'une...
Tu peux expliquer ce que c'est peut-être?
Bon, ce qu'on appelle un peu le serial monogame, voilà, c'est ce qu'on... Souvent un peu, c'est en rigolant entre nous. Mais disons que c'est ce phénomène qui est un peu pour le moment, qui est de vivre une période avec une personne, et puis on se sépare, on revit une autre période avec une deuxième personne, puis on se sépare. Et puis, mais donc de tout le temps vivre des relations monogames, mais qui se suivent. Et donc c'est pourquoi on pourrait éventuellement voir ça comme une forme de polygamie, c'est que finalement on en arrive à ne plus avoir une seule personne dans sa vie, mais une succession d'amour. C'est peut-être bien probable qu'on ne soit pas fait pour vivre une vie avec une seule personne, une vie entière. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça a été un appel relativement fort de mon corps qui a été dans l'appel, dans le besoin. Et on est peut-être tous des polyamoureux en puissance, mais il y a la pression sociale qui est là, il y a les idées qu'on nous enfonce dans nos sociétés occidentales, qui est le prince charmant, la princesse charmante, un jour mon prince viendra et puis je serai heureuse et nous ferons beaucoup d'enfants et on chantera comme Blanche-Neige jusqu'à la fin de nos jours, quoi. Et moi, j'ai vu dans la réalité que c'était pas vraiment ça qui se passait, et c'est vrai que c'est un peu décevant quand on croit au prince charmant puis qu'on se rend compte, ouais, autant, c'est pas comme ça que ça fonctionne finalement dans la vie. Voilà, mais bon, d'un autre côté, toi et moi, nous sommes en relation depuis 25 ans. Donc, il y a quand même une continuité dans ce qu'on vit. Donc, tu es quand même une personne avec qui j'ai une relation très, très constante, très, très stable. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à dire que oui, je suis en partie faite pour vivre une relation jusqu'à la fin de ma vie. En tout cas, je l'espère. Mais que j'ai aussi besoin, moi, de liberté, j'ai besoin... Et en fait, je ne cherche pas forcément après des relations amoureuses. Je peux avoir des amis, et puis pouf, tout d'un coup, un jour, ça se transforme. Et alors, de devoir me frustrer, de devoir dire non à une expérience qui pourrait être magnifique, c'est dur, quoi. Mais bon, s'il faut vraiment le faire, si c'est par exemple quelqu'un de monogame, moi, je ne vais surtout pas mettre d'autres couples en péril ou des choses comme ça. Bon, ça se fait tout à fait naturellement, mais je veux dire, s'il y a une attirance, c'est... En tout cas, moi, je pars un peu du principe, peut-être que s'il y a une attirance, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre.
Donc il y a quand même une bienveillance aussi, moi je le sens aussi dans le réseau, hein, mais sur, je rencontre quelqu'un, et dans quoi est l'autre personne? Comment est-ce qu'on peut pas vivre quelque chose sans... provoquer des dégâts à l'extérieur.
Oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Je n'ai vraiment jamais aucune intention de briser des couples. Et d'ailleurs, généralement, quand je rencontre des personnes qui sont en couple, déjà, je pense que moi-même, je mets déjà tellement une barrière qu'il y a peu de chances déjà que je sois attiré par cette personne parce que c'est vraiment pas mon intention d'aller mettre d'autres personnes en péril ou en danger ou en malheur, quoi. C'est pas du tout mon intention. J'annonce souvent de toute façon la couleur quand je rencontre des gens, souvent même des amis, quoi. Très vite ils savent ce que je vis et généralement, de toute façon ça se vit bien généralement, mais les choses sont claires, quoi.
Alors tantôt tu faisais référence à l'autonomie affective qui est sans doute nécessaire pour arriver à vivre des amours pluriels. Et comment est-ce que toi tu t'es fabriqué une autonomie affective? Ou alors, parce que peut-être que comme tu le disais, on n'acquiert pas ça de nos parents, ni sans doute de la société, donc comment tu as pu mettre ça en place?
Mais je ne sais pas si je peux prétendre qu'on y arrive. Mm-hmm. Qu'on y arrive. Quand on parle, j'entends souvent dans des discussions « Ah oui, je ne suis pas encore à ce stade-là » ou mettre un peu dans des discussions, ça, des termes comme ça de le jour où on y arrivera, ok, sera fait, je serai au top. Ouais, ouais. C'est un peu exactement la même chose que dans le processus thérapeutique, mm-hmm. où souvent au début on commence en se disant ouais, le jour où j'aurai travaillé ça et ça, l'enfant blessé, le machin, je serai bien. Mais moi je crois qu'on n'a jamais terminé, on est des êtres dynamiques. Et je pense pas qu'on puisse dire, voilà, j'ai fait un travail sur moi-même, ça y est, je suis au top, ok. Je crois qu'on est... la vie fait toujours en sorte qu'on soit mis face à des... Je sais pas, des épreuves, mais en tout cas des expériences, des choses. Et ça nous fait... Ça nous met au travail. Donc, pour moi, le polyamour me met au travail au niveau de mon autonomie. Et je crois pas pouvoir dire un jour, ça y est, top, j'y suis arrivé, je suis complètement autonome. Parce qu'on n'est jamais le même ou la même d'une année à l'autre. On est parfois plus fragile, on est parfois plus fort. On est parfois en relation avec d'autres gens qui nous nourrissent. Ou alors l'autre rencontre quelqu'un quand toi t'as personne. Ou voilà, on est des êtres dynamiques. Et donc, moi je sens que je tends vers plus d'autonomie. Mais je ne peux pas dire que j'y suis. Mmh. Parce que j'ai encore des moments de doute. J'ai encore des moments de jalousie. Mais je sais que ma jalousie, par exemple, elle n'est pas liée à ce que toi tu vis, à ce que l'autre vit. Généralement, quand je me sens jalouse, c'est quelque chose qui cloche dans ma vie. Si je regarde ce que l'autre vit, je me dis, si je regarde ce que l'autre vit, c'est qu'il y a un vide là chez moi, soit que je ne vais pas voir, soit sur lequel je dois me pencher. Mais voilà, donc moi j'ai envie de dire que on n'arrive peut-être pas, peut-être que oui, peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, mais je ne crois pas que ça doit être un but en soi, de se dire, voilà, il faut encore que je travaille pour être un jour complètement autonome. Non, parce que ça se trouve, cette année-ci, je suis très bien, et l'année prochaine, je vais être complètement jalouse, et je vais souffrir d'une relation que tu pourrais avoir. Donc voilà, on peut tendre vers une autonomie, mais c'est jamais gagné d'avance.
Et en même temps, il y a quand même des balises qu'on a l'air de mettre, toi et moi, pour éviter, malgré tout, on va dire, pour un petit peu cadrer, quand tu dis, oui, l'année prochaine, peut-être, tu peux être jalouse, c'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on vit, comme on a eu quelques relations qui ont duré quelques années aussi, on a pu, avec des gens à l'extérieur, on a pu expérimenter des pièges peut-être un peu évités, c'est ça?
Mais disons que, nous, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on pratique le polyamour. Et donc, c'est clair qu'on a eu le temps quand même d'expérimenter pas mal de choses. Et moi, en conclusion, peut-être à notre expérience, c'est que je me rends compte que ça a développé à l'intérieur de notre couple une capacité, en tout cas, à d'abord pour chacun des individus qui constituent le couple, à réfléchir sur soi-même, de dire mais qu'est-ce qui m'arrive, je sens que je souffre, qu'est-ce qui me fait souffrir, une capacité à pouvoir l'identifier et à pouvoir le partager à l'autre. Mmh. Et donc c'est là qu'on évite peut-être certains pièges, c'est que on arrive à faire de la prévention. Mmh. Mais là je pense que c'est parce que on a eu beaucoup d'expérience et on a eu le temps d'expérimenter plein de choses. Et que maintenant, je trouve qu'on en arrive quand même à un stade où on sait qu'il faut être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre. Et que quand l'autre exprime quelque chose qu'il vit difficilement, je crois que pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, on se rend compte que c'est vraiment très très important d'en tenir compte et de peut-être parfois un petit peu revenir sur certaines de nos intentions avec des relations extérieures, revenir parfois sur, devoir parfois peut-être un petit peu ralentir, devoir parfois un peu remettre des limites qu'on avait pourtant peut-être dépassées dans une autre relation. Donc là aussi, c'est quelque chose de très dynamique où je crois qu'on a appris ça justement, que là non plus c'est jamais acquis et qu'une relation n'est jamais l'autre et qu'on se doit d'être tout le temps à l'écoute de l'autre et dans le plus grand respect possible de ce que l'autre ressent pour que ça se passe bien justement.
Alors pour faire une petite analogie avec les années 70, Françoise Saint-Père me confie un jour que dans ces années-là, mai 68, les premières libérations, même si on sait que peut-être 50 ans ou 100 ans en arrière, il y avait aussi évidemment des pas en avant dans certaines luttes féministes sûrement, des choses comme ça, mais que dans le fond, dans les années 70, il y avait presque une obligation quand l'un avait un partenaire que l'autre en ait un aussi. Et là, tout à l'heure, tu faisais une petite référence en disant peut-être que parfois mon partenaire aura quelqu'un, moi je n'aurai peut-être personne à ce moment-là. Et donc là, Françoise disait oui, dans le fond, c'est peut-être ça qui est maintenant la différence avec aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas se forcer, parce qu'elle disait à l'époque, nous, parfois, on se forçait. On disait ah oui, je vais me forcer à avoir une relation pour équilibrer absolument, pour ne pas être seul ce soir-là, quoi.
Oui, moi je suis intervenue sur le forum justement il n'y a pas longtemps suite à un témoignage de Nirgal qui disait oui, je ne sais pas si je suis polyamoureux puisque moi je n'ai pas d'autres relations, mais mon amoureuse est en relation plurielle. Pour moi, il n'y a pas besoin forcément d'avoir soi-même plusieurs relations que pour pouvoir se sentir et en tout cas peut-être alors se dire polyamoureux. Moi je pense que c'est un mode de penser déjà avant tout, de se dire mais tiens, on peut aimer plusieurs personnes en même temps, on peut, et puis c'est un mode de vie. Et pour moi, Nirgal à ce moment-là était vraiment un polyamoureux. Sa compagne avait d'autres amoureux et c'était quelque chose. Il a vraiment fait tout un chemin par rapport à ça. Et puis, il faut lire son témoignage qui est vraiment très très riche. Où finalement, c'était vraiment une expérience polyamoureuse, quoi. Et donc, pour moi, je ne vais pas forcément aller chercher une relation avec quelqu'un d'autre parce que tu en as une. Si ça ne me correspond pas aux besoins ici et maintenant, je ne vois pas pourquoi je vais courir après. Moi, l'amour, c'est toujours un peu quelque chose qui m'est tombé dessus. Je vais pas aller le chercher. Si ça se met, ça se met. C'est ce que je sais parce que je dois le vivre. Et si ça se met pas, c'est que je dois vivre autre chose. Et en tout cas, dans les moments de solitude, moi, ou toi, t'étais parti, ou toi, t'avais une relation et moi pas. J'ai appris énormément sur moi-même. J'ai appris à aimer, à passer du temps seul.
Oui.
Et à vraiment aimer être seul, sans me dire mais qu'est-ce qu'il fait, où il est, avec qui, qu'est-ce qu'il vit, et à profiter de l'instant présent, et quand tu rentrais, de profiter de ce que tu échangeais, de ton bien-être, de... Voilà, parce que pour moi, c'est dans la configuration de ce que nous, on vit. Évidemment, voilà, nous, on a un couple,
oui.
On dit souvent, les relations principales, parce que ça s'est mis comme ça. On était ensemble depuis plusieurs années quand on a commencé à vivre selon un mode polyamoureux. Donc, on a des enfants, on a une maison commune, et voilà, donc... c'est notre relation principale et nous avons, toi et moi, des relations en dehors de cette relation principale.
Ok, et donc maintenant tu parlais d'être mère, dans la façon dont tu as élevé les enfants, est-ce que tu espères ou est-ce que tu penses que c'était nécessaire ou alors tu penses que c'était induit, voilà, que nos enfants observent qu'il y avait d'autres façons de vivre et que plus tard ils feront leur choix, c'est un peu ça?
Moi, ce que j'avais envie d'offrir à mes enfants, mais c'était... Bon, d'abord, j'ai une fille, donc ça m'a fort, fort questionné, le fait d'avoir une fille. Puisque moi, on m'avait dit... ma fille, tu seras mère, mère, tu seras mère, tu resteras. Évidemment, j'avais pas envie de faire ce genre de choses avec ma propre fille. Et je crois que je sentais que moi, j'avais vraiment évolué là-dedans. Et pour moi, ce qui était important, c'était de montrer à ma fille qu'on pouvait être mère, mais qu'on pouvait aussi être femme. Ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Je pense que le fait d'avoir des enfants m'a vraiment mis en travail, ça m'a mis... c'est comme si ça me poussait dans le dos, ça me donnait presque même une obligation de me remettre en question et d'aller... de pas reproduire les mêmes choses que mes parents. C'est vrai que pour moi, on n'a pas caché à nos enfants hein, nos relations extérieures parce qu'on n'avait pas envie qu'ils se posent des questions en nous voyant partir, en nous voyant... Mais ce que je leur ai toujours dit, c'est que moi, c'était mon mode de vie, que moi, c'était quelque chose qui me nourrissait, mais que c'était pas le modèle du couple non plus. C'était notre modèle à nous, mais qu'il y en a d'autres et qu'eux allaient trouver le leur.
Et puis, de toute façon, étant plus jeune, il n'avait pas de questions par rapport à ça. Il nous voyait partir, revenir. Parfois même des amis proches ou moins proches venaient à la maison.
Oui.
Mais on va parler de l'adolescence où voilà. Notre fille a trouvé que ce modèle avait l'air intéressant, et puis le jour où elle a vu ses parents qui étaient un peu plus stressés, elle a quand même fait un petit pas en arrière en disant « Oui, mais ça, dans le fond, c'est votre business, et je vois que c'est pas la solution miracle. » Et puis plus tard, aujourd'hui, je pense qu'elle a un regard plus nuancé en se disant « Ben, voilà, elle fera ses choix, et elle observe qu'il y a plusieurs modèles, en tout cas. »
Oui, oui. Bon, elle sait qu'il y a plusieurs modèles. Mais d'un autre côté, quelque part, c'est vrai qu'elle a voulu l'expérimenter. Et ça s'est pas très très bien passé pour elle. Je pense qu'elle n'était pas tout à fait prête. Ça n'a pas été facile. C'est une expérience qui a été douloureuse pour elle. Et elle me disait justement dernièrement que elle avait besoin maintenant de rencontrer quelqu'un qui était stable et qui lui proposait une relation stable. Donc pas une relation ouverte à d'autres. Et c'était son besoin actuel. Mais je crois qu'à travers notre vécu, voilà, elle a vu qu'il y avait d'autres portes, qu'on pouvait toujours expérimenter des choses et qu'on pouvait peut-être sortir un peu des sentiers battus, sans pour ça forcément devoir rompre ou devoir mettre vraiment fortement en danger une relation. Ou... Voilà, pour moi, c'est peut-être un petit peu ce qu'on lui a transmis.
Et donc tu insistes justement sur le fait que tu parles beaucoup de ta fille d'abord, comme si peut-être avoir un fils, dans le fond, il y a une sorte de comment on va dire, la société plus tolérante vis-à-vis d'un homme qui a plusieurs femmes. Est-ce que c'est ça que tu veux mettre en avant aussi? C'est que l'éducation des filles, c'est de dire aussi, ben, écoute ma fille, voilà, il y a la vie devant toi, il y a un système monogame patriarcal qui est là aussi devant nous, comment tu te situes, quoi? C'est ça que tu veux expliquer aussi? Est-ce que tu sens qu'il y a une mission, toi, en tant que maman, envers ta fille, ou globalement envers d'autres femmes? Est-ce que les femmes, justement, dans le milieu polyamoureux, ont un combat à mener, ou est-ce que c'est plus difficile, ou est-ce que... Voilà.
En tant que femme envers les femmes, oui, ça oui.
D'accord.
Je ne parlerai pas de combat, moi. Ouais. C'est pas un terme qui me plaît beaucoup dans ce genre de domaine. Bon, d'autres ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais... pour moi, je ne vis pas du tout le polyamour comme un combat. C'est peut-être plus un combat avec soi-même, finalement, le polyamour. Bon, mais c'est ma façon de le vivre, c'est ma façon de l'envisager. Et je peux très bien comprendre que d'autres personnes ou d'autres femmes l'envisagent autrement, peut-être plus comme un combat, comme une réponse à une forme de patriarcat contre lequel elles s'inscrivent. Moi, c'est pas tellement dans ce sens-là. Je j'ai pas une vision aussi macro. Je vais avoir une vision peut-être un peu plus de l'individu, moi. Ça va être une vision un peu plus micro, je pense. Où c'est un chemin... C'est peut-être un petit peu rejoindre Bob, alors, où c'est vraiment un chemin de développement personnel. Et moi, c'est plus dans ce sens-là que je vais l'envisager. Voilà. Mais je peux très bien... comprendre, je peux très bien sentir et voir que ça peut vraiment faire partie d'un combat beaucoup plus macro, peut-être de certaines femmes, mais je dirais pas seulement de certaines femmes, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hommes dans le réseau poly, et ces hommes-là ont aussi beaucoup, Ils arrivent avec des témoignages magnifiques et ils arrivent avec des témoignages de recherche, d'expérience et qui est vraiment très très beau. Et donc, je trouve que déjà un peu d'emblée, on est un peu hors de ce patriarcat dans le réseau. Les hommes qui viennent généralement dans le réseau sont déjà des hommes qui ont tendance à partager, je vais entre guillemets partager leurs femmes, ou qui sont ouverts à ça en tout cas. Et donc, quelque part, je sens ça un petit peu moins dans notre petit réseau, quoi.
Une sensibilité, ils ont accès à une certaine forme de féminité en eux, c'est ça?
Est-ce qu'ils ont accès à une certaine... Bon, tout ça dépend de la définition du féminin, du masculin. J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ce sont des hommes qui se mettent en contact avec leur émotionnel et qui sont dans des questionnements et qui sont dans une recherche, en tout cas.
Et donc, toi, tu habites ici en Belgique, avec l'Occident, avec tout le chemin. Jacques Attali dit que dans 2050, on sera tous plus ou moins là-dedans, en une forme ou l'autre de polyamour. Est-ce que tu rejoins ça ou est-ce que tu te dis, dans le fond, l'humanité est vaste et on est là-dedans maintenant, mais on ne sait pas trop après. Enfin, est-ce que tu as une petite idée là-dessus?
Mais on y est déjà presque, quand on voit le taux de divorce, de remariage, de divorce, de remariage, de redivorce, de remariage. Pour moi, c'est déjà aller à l'encontre d'un modèle qu'on nous a toujours proposé, du couple qui passe une vie de leurs 20 ans, leurs 80 ans. Donc pour moi déjà, le couple en lui-même, à travers l'institution mariage, est déjà fort remis en question. Peut-être que le polyamour, il y a aussi la notion de famille qui entre, il y a aussi la notion... Bon, il y a peut-être d'autres notions qui entrent dans le modèle du polyamour. Enfin, j'aime pas dire modèle, mais... Mais en tout cas, pour moi, quelque part, on y est déjà, on fait déjà péter des frontières, et même si c'est pas encore dans les pratiques de pas forcément rompre une autre relation parce qu'on rencontre quelqu'un d'autre, pour moi déjà, de toute façon, il y a des successions d'amour, de vie amoureuse. En tout cas, on ne commence plus une vie à 20 ans avec quelqu'un et la terminer avec cette même personne à 85, 90 ans.
Je te prends au mot. C'est rare, je te prends au mot. Voilà, c'est rare, mais pour ceux qui vivent ça, qu'est-ce que tu leur dis?
Mais bravo, chapeau. en espérant qu'ils ont vraiment été heureux ensemble et qu'ils aient vraiment... Bon, ceci dit, regarde, nous, voilà, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Quelque part, c'est comme si on retournait un peu vers ce modèle-là, mais en trouvant des solutions, en trouvant...
Oui, d'accord, mais l'amour exclusif, monogamie, c'est être rien qu'à deux pendant 50 ans. Quoi.
Bon, moi, je dis toujours qu'il devrait y avoir autant de façons de vivre en couple qu'il n'y a de membres qui forment ces couples, troupes, tout ce qu'on veut. Et donc, si des personnes sont vraiment très heureuses dans une vie en couple, relation exclusive à très long terme, mais moi, j'applaudis des deux mains, tant mieux, c'est tant mieux pour eux, enfin... Si vraiment c'est quelque chose qui leur correspond, bravo.
En plus, le mouvement polyamoureux est ouvert au-delà de l'hétérosexualité, comme en plus on est à la Maison Arc-en-Ciel depuis 2 ans, et que l'on voit parmi nous quelques membres qui sont aussi dans des relations homo à plusieurs, parfois des bisexuels aussi. Donc on sent qu'il y a remise en question des carcans et une envie de se libérer de tout ça. Ça, tu confirmes?
Oui, oui. Mais souvent, justement, oui, voilà, pour parler de modèles de carcans... J'entends parfois dire dans des discussions, oui, mais c'est ça, le polyamour. Oui, mais dans le polyamour, on doit avoir ça, ça, ça. Oui, mais le polyamour, c'est comme si, ça devrait être comme ça. Donc, qui édicte des tas de règles comme ça, polyamoureuses. C'est des choses souvent auxquelles je réagis parce que j'ai peut-être pas envie non plus qu'on enferme le polyamour dans une espèce de modèle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'aime pas le mot modèle polyamoureux.
Une invitation alors?
Oui, parce que je trouve que c'est tellement personnel sa façon de vivre le polyamour. C'est tellement bon, c'est de nouveau une vision un peu micro, hein. Mais je sais pas, c'est des remises en question justement de ce qu'on nous a proposé comme modèle dominant. Alors, est-ce qu'on va aller de nouveau enfermer quelque chose qui se veut un peu en réaction à, ou au contraire, aller l'enfermer dans des règles, dans un modèle de nouveau. Moi, j'ai pas envie de proposer un modèle polyamoureux. J'aime bien, moi, quand les gens viennent exprimer leurs expériences, de dire, ah tiens, ceux-là, ils vivent le polyamour comme ça. Ah tiens, eux, c'est, voilà comment ils le vivent. C'est même important pour moi de voir... il ne devrait pas y avoir de règles. Polyamour ne veut pas dire, par exemple, pas de jalousie. Parfois, c'est un peu dans nos discussions, ça tourne un peu comme ça. Oui, oh, elle a rencontré quelqu'un d'autre et tout. Oui, moi, je le vis bien. Oh oui, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais en fait, non, c'est pas tous les jours magnifique, c'est pas tous les jours merveilleux. Et peut-être pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Et on est tous différents, donc on a tous une façon différente de vivre le polyamour. Et pour moi, il doit y avoir des règles, mais c'est chaque fois des règles à tout le temps remettre en cause, à tout le temps remettre sur le tapis. Et toujours un travail à remettre sur le métier, comme ça c'est tout le temps à renégocier, à retravailler, c'est jamais acquis pour moi, il n'y a jamais rien d'acquis.
Donc là tu viens de passer un petit peu de temps, enfin je ne sais pas si c'est un scoop, mais enfin en Espagne dans une belle communauté plutôt agricole, est-ce que tu as parfois en étant là-bas, tu t'es dit tiens dans le fond... cette communauté fonctionne bien, ça me plairait peut-être moi dans le fond d'être dans une sorte de polyfamille, comme ça, un petit peu en réseau. Donc on parlait de la maison des enfants ici, mais est-ce que si tu avais l'occasion ou les moyens ou l'envie, est-ce que tu irais jusqu'à te dire, ben, on pourrait peut-être vivre plusieurs amours, plusieurs adultes ensemble, comme il y avait Hularel et Marion sur le site dans mes émissions Polyplaisir des Utopies, qui ont parlé assez bien de ça en Espagne, ça me fait penser à ça. Il venait de là-bas, en tout cas lui, et là c'était clair pour lui, il disait par exemple, moi je ne ferai des enfants que s'il y a 10 adultes autour de lui, quoi. Oui. C'est un peu radical,
oui.
Mais bon.
Oui, la tribu. Mais voilà, j'ai l'expérience d'une... comment on appelle ça, la famille cellulaire. Mm-hmm. Je ne sais plus, c'est comme ça qu'on appelle, mais... Donc, nucléaire, je crois. Mm-hmm. Donc c'est papa, maman... et les enfants. Et puis, je viens de passer un mois dans une communauté, donc où il y avait une vingtaine d'adultes, et quand tous les enfants étaient là, parce qu'il y avait des gens qui venaient que le week-end parfois, ou à la fin, j'ai vécu le début des vacances, donc au début, il y avait que cinq enfants, puis à la fin, quand je suis parti, il y en avait 10. Mmh. Mais donc, j'ai vu l'éducation de ces enfants, et j'ai trouvé ça magnifique, et j'ai compris pourquoi j'ai toujours eu ce rêve de vivre en communauté. Mmh. Donc, la communauté, pour moi, c'est une forme de tribu. Mmh. Et de voir ces enfants qui étaient éduqués par une tribu, qui étaient en accord. Ils étaient en accord. Donc,
globalement, en tout cas.
Globalement. Il y avait parfois des accrochages, évidemment, hein, mais ça, c'est un peu... Mais en tout cas, dans les grandes lignes, de la façon dont ils géraient notamment l'éducation des enfants... ils étaient vraiment en accord. Bon, ça fait 27 ans qu'ils sont là-bas, donc ils ont eu le temps d'expérimenter, de chercher. Mais là, je pense qu'ils ont trouvé quand même une façon de faire. Et les parents, en fait, disent à la communauté, oui, je veux bien que la communauté intervienne, ou non, on veut éduquer nos enfants en couple. Mais de toute façon, les enfants sont quand même pris en charge par d'autres, ben, comme s'ils allaient à l'école, il y a des garderies qui sont organisées, où chacun se relève pour faire un jour la garderie. Mais en tout cas, de voir tous ces adultes qui tournaient autour des enfants, moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique parce qu'il y a des relais. Il y a notamment, en fait, ils ont deux communautés. Ils en ont une à Madrid et une dans la région de Séville. Et donc, il y a parfois des papas qui travaillent dans la communauté de Madrid parce que c'est la communauté de Madrid qui génère des revenus pour les deux communautés. Et donc, il y en a certains qui travaillent à Madrid, donc qui font l'aller-retour Séville-Madrid, et qui partent parfois pendant une semaine, 15 jours. Mais donc, ces enfants, à certains moments de leur vie, ne sont pas en présence de leur papa, mais il y a plein d'autres représentants masculins autour d'eux. Ils vivent aussi autour de plein de femmes, et il y a plein de modèles qui leur sont proposés, plein de types de relations différentes, il y a plusieurs générations... Et je trouve ça très cohérent. Je pense que cet instinct chez l'homme là, de se rassembler, j'ai trouvé ça beaucoup plus naturel en tout cas, d'être plusieurs adultes autour des enfants.
Est-ce que tu pourrais imaginer qu'il y ait vraiment un polyamour qui sera affiché en plus ou tu penses que ça pourrait compliquer les choses ou...
Tout dépend de comment c'est géré. Moi, j'y ai pensé, hein. Et je pense que ça peut être possible, mais à certaines conditions. Cette communauté-là, par exemple, est une communauté qui est très orientée, développement personnel. Donc, ils ont quand même tous des démarches de développement personnel. Chacun à sa façon, hein. Il y en a qui font du massage, il y en a qui font de la biodance. Mais de toute façon, donc la responsable est une analyste jungienne. Et donc, forcément, ils font un travail commun, en fait. Ils ont des réunions régulières où ils travaillent sur base de leurs rêves. Et là, c'est tout le monde en même temps. C'est comme si c'était un peu une thérapie de couple, quoi. De groupe. Enfin, c'est un peu grand mot, mais c'est du développement personnel, en tout cas. Et la responsable me disait, on n'aurait pas fait ça, on n'aurait peut-être pas tenu 27 ans, quoi. Elle disait que c'était vraiment utile, cette démarche-là, parce que la vie en communauté demande quand même une forme d'autonomie, et puis qu'on puisse chacun un peu connaître et gérer ses propres émotions. Et c'était surtout dans ces termes-là qu'elle m'en a parlé. Et donc, moi, j'ai imaginé un peu, comme je suis une grande idéaliste, je sais pas, je me dis, ah ouais, tiens, bon, voilà, eux, ils vivent ça, il y a des gens qui sont en couple dans cette communauté. Il y a dans la communauté aussi des gens qui ont été en couple, donc qui se sont séparés, qui ont eu des enfants ensemble, qui se sont séparés, mais qui continuent à vivre dans la même communauté, et avec qui ça se passe vraiment très bien, et qui sont en couple avec d'autres. Mais, et alors, du coup, je me suis imaginé, mais oui, mais ce serait peut-être possible, en fait, en ayant des relations multiples. Mais je pense que pour moi, alors, il faudrait que... Il faudrait s'occuper d'un peu des émotions de chacun, de comment ce que chacun vit, parce que, comme je disais, on est des êtres dynamiques et il y a des jours où ça se vit bien, des jours où ça se vit moins bien. On peut pas être sur des acquis et se dire ça y est, ok, elle a accepté ma présence, je peux y aller. Voilà, donc pour moi, ça demanderait quand même beaucoup de prudence et beaucoup de je vais pas dire travail, mais de questionnement, d'échange.
Ben ça se termine doucement et donc
déjà.
Oui, mais j'avais une dernière invitation, mais ça peut, on a encore un peu de temps de toute façon. Mais est-ce que tu as l'impression, voilà, qu'il y a un avenir à ce genre de petite communauté naissante et est-ce que tu t'y inscris, quoi, voilà.
Mais moi, je pense, pour avoir entendu quand même beaucoup de témoignages dans ce sens-là, c'est que les gens, quand ils découvrent le réseau, quand ils découvrent le site internet, la richesse de certains témoignages, ou bien même des propositions de bibliographie. Généralement, les gens, ils arrivent en disant « Oh, quel bonheur, je me rends compte que je suis pas seul, je me sentais tellement seul dans ce que je vivais, ou ah, je me rends compte que je suis pas normal. » Donc, je pense que ce réseau permet peut-être, que des gens qui vivent le même type d'expérience se rencontrent et partagent leurs expériences, leurs vécus. Et ça, je crois que ça aura toujours de l'avenir. Même si le réseau ne grossit pas, tout d'un coup, on ne se retrouve pas à 1000 personnes au bout de 10 ans. En tout cas, c'est peut-être pas ça le but recherché, mais que les gens qui sont en recherche, y trouvent en tout cas d'autres personnes qui sont comme eux et avec qui pouvoir échanger leurs expériences. Ça, je crois que oui, ça y aura toujours. J'ai rarement vu des gens qui venaient vers le réseau polyamoureux en disant « Oh, je découvre complètement, je pensais vraiment pas du tout que c'était possible ». C'était déjà des gens, souvent, qui se posaient des questions, qui sentaient un élan vers son mode de vie. Et donc si ça peut répondre à ça, moi je trouve ça bravo, quoi, génial. Et je pense que ça va continuer, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter.
Eh ben, je te remercie, Sophie.
Ben, je te remercie, Philippe.
Les musiques qui illustrent cette émission sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin. Toutes ces musiques sont disponibles sur le site de musique libre jamendo.com. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à deux pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le deuxième mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Pour les plaisirs des utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies.